Braca arriva le surlendemain en s'annonçant par le miaulement convenu. Elle vit bien qu'il était arrivé quelque chose d'extraordinaire à Bella. Aussi se mit-elle à l'interroger finement sur tous les points. « Dieu soit loué !» dit-elle lorsqu'elle eut remarqué l'absence du chien noir. « Oh, le chien n'y est plus. Oh, je l'aurais bien tué depuis longtemps le matin si je l'avais osé. Mais il avait été laissé par ton père. C'est à cause de cela que je me suis retenu. Cependant, un jour, je l'avais renfermé dans un sac pour le noyer, mais au moment où je soulevais le sac pour le jeter à l'eau, il mordit si fort la main que je lâchais l'enveloppe et le chien avec. Mais dis-moi, comment as-tu donc fait? Comment cela est-il arrivé ?» Bella, qui épluchait les pommes pour se donner une contenance, lui raconta avec de grands détails qu'elle était sortie la nuit dans le jardin, qu'un chien furieux était accouru vers elle, que Simpson avait sauté sur l'ennemi et que tout s'était battu et déchiré jusqu'à ce que le chien étranger eût pris la fuite. Alors Simpson, tout moulu et tout sanglant, s'était mis à sa poursuite. Depuis ce temps, elle ne l'avait pas revu, peut-être parce qu'il s'était senti enragé et qu'il n'avait pas voulu blesser sa maîtresse. Bella avait raconté cette histoire d'une manière si vraisemblable, bien que ce fût son premier mensonge, que Braca fut satisfaite et se mit à regretter le pauvre chien, à louer sa fidélité et à se féliciter qu'elle eût échappé à un si grand danger. Maintenant, Bella avait le courage de raconter à la vieille tout ce qui lui passerait par la tête. Quant à son petit homme Racine, elle attendait avec impatience le départ de la vieille, car elle craignait de ne plus retrouver son enfant en vie. La vieille, après avoir mangé la soupe à l'oignon qu'elle s'était fait cuire, se décida à partir. Bella ferma aussitôt la porte derrière elle et courut à son cher berceau. Elle le découvrit en tremblant et vit le millet qui germait déjà sur la tête du petit homme Racine. Les baies de genièvre s'animaient aussi. C'était dans le petit être un mouvement semblable à ce qui se produit dans la campagne au printemps, lorsqu'après les pluies paraissent les premières lueurs de soleil. Rien ne pousse encore, mais la terre s'agite en tous sens, et de même que les rayons du soleil font tout sortir, tout germer, de même, par un baiser, Bella réveilla l'effort de cette mystérieuse nature. Comme elle était extrêmement fatiguée, elle se coucha, mais tout près du berceau, sur lequel elle étendit une main dans la crainte qu'on ne lui dérobât son trésor. Que dirons-nous de l'attachement extraordinaire qu'elle manifestait pour cette ébauche humaine, elle qui avait éprouvé le même amour pour le beau prince? C'était chez elle ce sentiment sacré qui nous attache à tout ce que nous créons et qui nous rappelle cette parole de l'Écriture. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour le sauver. Ô monde, fais-toi donc encore plus beau pour te rendre digne d'une telle grâce. Bella avait entièrement oublié qu'elle était allée chercher le petit homme merveilleux que pour en tirer le moyen d'approcher du prince aimé d'elle. Maintenant, cet enfant surnaturel, découvert au prix des plus grands dangers, occupait toutes ses pensées. Dans son sommeil, elle vit le prince qu'elle avait presque oublié. C'était dans un tournoi où l'on s'exerçait à lancer la flèche. Ses adversaires le défiaient, le provoquaient par la vigueur et l'adresse de leurs tirs, par l'habitude avec laquelle ils menaient leurs chevaux. Mais le prince les surpassait tous. Ses flèches allaient au ciel se planter dans les étoiles et les faisaient tomber sur sa poitrine où elles venaient tourner, former une brillante parure. La plupart de ces étoiles s'éteignaient après quelques minutes. Mais il y en avait une qui étincelait au milieu de sa poitrine et qui s'y enfonçait toujours et Bella ne pouvait en détacher les yeux. Là-dessus, elle se réveilla. Ne se souvenant plus à qui elle s'était si vivement intéressée, elle supposa que le petit homme Racine était le héros de son rêve. Elle lui dit bonjour en s'éveillant, et le monstre lui répondit par un gémissement, comme un nouveau-né, en la regardant avec de petits yeux noirs et tout ronds, qui semblaient vouloir lui sortir de la tête. Son visage jaune et ridé réunissait l'expression de différents âges de la vie, et le millet avait déjà poussé sur sa tête en touffes hérissées. Il en était de même sur les parties de son corps où il en était tombé quelques graines. Bella pensa qu'il demandait à manger. Elle était très embarrassée de savoir ce qu'elle lui donnerait. Comment se procurer du lait? Après quelque temps de réflexion, elle se souvint d'une chatte qui avait mis bas dans le grenier. Ravie de cette trouvaille, elle alla chercher les chatons et les plaça dans le berceau avec le petit homme Racine, qui la regardait déjà d'un air malin. La chatte va bientôt rejoindre sa progéniture, mais il arriva que les infortunés aveugles furent trompés par leurs nouveaux camarades, qui, voyant clair de tous côtés, épuisaient avant eux la provision de la mère sans que celle-ci fît attention. Bella, à genoux, auprès du berceau, regardait pendant des heures cette ruse de son petit homme. En le voyant tromper ainsi les autres, elle lui trouvait une grande supériorité, et en remarquant comme il savait éviter leurs griffes, elle admirait sa prévoyance et sa prudence. Mais ce qui lui plaisait le plus dans cet être, c'était les yeux qu'il avait à la nuque. Il la comprenait déjà lorsqu'elle lui faisait signe du regard, qu'un des petits chats était tombé de sa place, car aussitôt il s'y mettait jusqu'à ce que l'autre fût revenu. Leur affection s'accrut si vite qu'elle s'affligeait à chaque goutte de lait que les nouveau-nés enlevaient à l'étranger, et qu'après avoir longtemps hésité, elle résolut d'enlever tout doucement un des petits et alla le porter sur le gazon au bord du ruisseau. Après l'exécution, elle s'enfuit aussitôt pour qu'il ne la suivît pas. Mais à peine avait-elle fait quelques pas qu'elle entendit un bruit dans l'eau et, en se retournant, elle vit le petit chat emporté par le courant. Cela lui fit de la peine. Ce corps porté sur l'eau lui rappelait son père innocent qui avait pris le même chemin, et elle fit involontairement un mouvement pour se jeter à la rivière, mais elle s'arrêta au bord. Elle comprit qu'elle venait faire de quelque chose de mal. Le ciel s'obscurcissait sur sa tête, la terre refroidissait sous ses pieds, autour d'elle, l'air s'agitait. Elle rentra précipitamment et se mit à pleurer. Lorsque le petit homme s'en aperçut, au moyen de ses yeux de derrière, il se prit à rire si fort que la chatte effrayée sauta du berceau en emportant un de ses petits entre ses dents. L'homme Racine était maintenant assez éveillé et assez fort pour être sevré. Seulement, avec des manières d'enfant, il avait l'air d'un petit vieux ridé. Voyant que la mauvaise action que venait de commettre Bella l'avait irrité contre lui, il s'approcha d'elle si près qu'elle ne pouvait pas le battre, et que ce qu'elle avait de mieux à faire, c'était de l'embrasser. Après cette victoire, il se mit à ramasser les racines qui jonchaient la chambre et qui avaient été jetées là, non pas par le duc Michel, mais par la vieille Braca qui, dans son ignorance, les avait abandonnées parce qu'elles ne pouvaient pas lui servir. Le petit tomba par hasard sur une racine de forte porte. Aussitôt, il se mit à sauter de la manière la plus risible sur la table et sur les chaises, tête en haut, tête en bas, tandis que Bella, effrayée et craignant pour ses yeux postérieurs, courait après lui comme une poule après son poussin, sans pouvoir le rattraper. Il sut bientôt fouiller dans tous les coins et chercher l'autre dont il avait besoin. Il trouva d'abord la racine d'éloquence que les vers perroquets ramassent sur les hautes cimes du Chimborazo et viennent dans la plaine échanger avec les serpents contre les pommes de l'arbre défendu. Arracher cette racine au serpent, le diable seul le peut. L'obtenir de ce dernier est fort difficile, et plus d'un y a consumé vainement sa vie. Aussitôt qu'il eut mangé cette racine, assez dégoûtante du reste, il sauta sur le poêle. Comme l'oiseau dont les ailes coupées ont repoussé peu à peu, et qui un beau jour, au grand étonnement de son maître, s'envole, et se plaçant sur l'arbre le plus voisin, au lieu de chanter la musique que lui a appris la nature, se met à siffler comme par raillerie l'air qu'on lui a seriné, les premières paroles du petit furent pour répéter celles de sa maîtresse. « Sois gentil, sois sage, reste tranquille. » Il ne cessait de les redire, et Bella l'aurait volontiers battu, mais il savait toujours se placer hors de son atteinte. Enfin, pour épuiser sa patience, il saisit une paire de lunettes rouillées et se mit à raconter, de la manière la plus extravagante, les malices qu'il voulait faire à tout le monde pour se divertir. Bella fut très affligée de le voir mettre des lunettes. En effet, qu'y a-t-il de plus familier, de plus intime chez l'homme que les yeux? Aussi est-ce un bien grand malheur quand la faiblesse de la nature nous oblige à interposer ces morceaux de verre entre nous et ceux que nous aimons. Bella se trouvait donc très inquiète de la conduite de son petit bien-aimé, lui qu'elle aurait volontiers divinisé dans le premier enthousiasme de sa création. Mais elle vit bien que le seul moyen de maîtriser la mandragore serait d'en parler à Braca. Mais elle y réfléchissait profondément, lorsque le petit homme lui cria du haut de la corniche où il était perché, « Écoute, Bella, je t'ai bien regardé avec mes yeux de derrière, et je te soupçonne de ne plus m'aimer comme au commencement. Si j'en étais sûr, ce serait fait de toi. » Bella fut très effrayée, comme une coupable convaincue de son crime. Cette propriété de tout savoir que possédait le petit homme, grâce à ses yeux de derrière, l'affermit dans sa résolution de se débarrasser de ce terrible diablotin. « Me te soupçonne !» cria le petit. « Je te soupçonne de méditer quelque chose de mal contre moi, mais je veux que dans un instant tu m'aimes autant que tout à l'heure. » À ces mots, il descendit, se plaça sur son sein et l'embrassa avec tant de feu qu'il lui écorcha presque la peau avec sa barbe de billet. Malgré cela, Bella sentit dans son âme un mouvement extraordinaire. Elle ne le comprenait pas et ne cherchait pas à le s'expliquer. Mais dans ce moment, le petit lui était devenu plus cher que jamais. Au bout de 8 jours, l'enfant avait accompli sa croissance. Il était haut d'environ 3 pieds et demi. Braca avait déjà soupçonné son existence. Lui, de son côté, n'ayant pas envie de se voir enfermé toutes les fois qu'elle viendrait, résolut de se montrer à Braca. Il découvrit une vieille robe brodée d'argent qui avait appartenu à la mère de Bella, et que celle-ci lui ajusta du mieux qu'elle put. Puis un soir, il s'assit dans un coin et fit semblant de lire lorsque la vieille entra. Bella lui dit que c'était sa cousine, une très riche demoiselle, et qui allait vivre avec elle et qui avait l'intention de faire un cadeau à Braca. La vieille se mit en devoir de faire un compliment et prit la main de la cousine pour la baiser, mais en sentant une main rude et âpre comme une racine, elle hésita à y appuyer ses lèvres. Cela humilia le petit homme qui lui lança un violent soufflet. La vieille, furieuse, se mit à vomir contre lui, les poings sur les hanches, les plus violentes injures. Si bien que Bella ne put l'apaiser qu'en lui faisant craindre d'éveiller l'attention des voisins et de faire découvrir leur retraite. Cependant, le petit homme ne s'était pas intimidé des injures de la vieille. Il se mit à sauter autour d'elle et à la poursuivre en lui donnant des coups de pied. Mais en faisant tous ces mouvements, son voile tomba. Et la vieille, l'ayant reconnu pour ce qu'il était, vint lui faire des excuses en tremblant. Lorsqu'il lui eut donné la paix, elle s'assit toute brisée sur une chaise. « Ah, mais là, dit-elle, que t'es heureuse d'avoir un petit homme comme cela qui peut découvrir et déterrer tous tes trésors. Mon beau-frère en avait un, qu'il appelait Cornelius Nepos. « Moi aussi, je veux m'appeler ainsi, dit le petit. Et qu'est-ce qu'il est devenu ?»« Ah, mon beau-frère fut tué d'un coup d'épée. » On trouva le petit homme dans sa poche et on le donna à des enfants qu'il allait reporter à un cochon. Celui-ci le mangea et en creva. Le nouveau sire de Cornelius fut très fâché de cela et il supplia instamment qu'on ne le donnât pas au cochon. Puis il demanda la description de cet animal. La vieille voulut lui faire comprendre qu'il n'avait pas un sein qui était du monde ni de ce qu'on y mangeait, mais qu'il devait chercher des trésors et ne pas s'occuper de l'avenir. Comme le petit Cornelius, faisant mine de s'impatienter, elle chercha à l'apaiser en lui exposant tous les honneurs auxquels il pourrait parvenir. Il y a chez les enfants chétifs une intelligence et une pénétration souvent extraordinaires. Comme s'il avait déjà vécu une fois la connaissance des choses humaines, lui revint tout à coup, indifférent à tous les tableaux que Braca lui avait fait de la vie délicieuse des boulangers et des sommeliers, rien ne le séduisait autant qu'un bâton de maréchal. Vêtu d'un brillant costume, comme celui du maréchal dont le portrait était au château, galopèrent à la tête de milliers de cavaliers, et recevoir leurs hommages, voilà ce qu'il voulait. Aussi ordonna-t-il que dans la maison, on ne l'appela jamais autrement que le maréchal Cornelius. « Ben, pour cela, il faut de l'argent, dit la vieille. Ici-bas, rien pour rien, de l'argent, crie sans cesse le monde. « Bon, quant à l'argent, je m'en charge, répondit le petit homme. Aussi bien je ne suis pas tranquille ici. Il doit y avoir un trésor caché dans ce coin. » La vieille se mit aussitôt à gratter avec ses ongles la pierre qu'il avait indiquée. Puis, comme cela n'allait pas assez vite, elle prit une barre de fer qui fermait la porte et se mit au travail. Par bonheur, le trésor était immédiatement derrière cette pierre. Au reste, tous les coups de pied du maréchal ne l'auraient pas empêché de traverser le mur tout entier. Aussi, sans se troubler des morsures et des égratignures du petit, elle amena bientôt une grosse cassette remplie de beaux écus d'or et d'argent. Elle s'assit dessus, puis tint ce discours solennel. « Mes enfants, jeunesse n'a pas de sagesse, dit le proverbe. Les vieux connaissent les sottises des jeunes. Vous ne savez ni l'un ni l'autre vous servir de l'argent, et vous seriez bientôt entre les mains de la justice soupçonneuse si je n'étais pas là pour vous conseiller. » Écoutez donc mes paroles et faites ce que je vous dirai pour jouir en toute sûreté de ce trésor. Écoute, Bella, tu m'as souvent appelé ta mère. Je veux t'en tenir lieu et emporter le nom dans le monde où je vais t'introduire. Toi, Cornelius, tu dois te faire passer pour au bon neveu, pour le cousin de ma chère Bella. Tu pourras ainsi habiter avec nous. Nous te recommanderons à quelque empereur qui te prendra comme feld-maréchal. Nous t'achèterons un beau costume avec une épée, un casque, un cheval de bataille, et alors tu seras heureux. Lorsque tu passeras dans les rues, les gens te montreront au doigt en disant « Voilà le noble chevalier, le feld-maréchal, le hardi guerrier. » Les jeunes filles baisseront les yeux et tu galoperas devant tous les autres en retroussant ta moustache. Si Cornelius avait regardé la vieille, il aurait bien vu qu'elle se moquait de lui, mais il ne l'avait qu'entendue, et depuis qu'il vivait, rien ne lui avait fait plus de plaisir que ce qu'elle venait de dire. Aussi, il lui sauta au cou et l'embrassa si fort que Bella, jalouse, le saisit et le mordit au lieu de l'embrasser à son tour. Mais comme le petit n'entendait pas qu'on le traitât ainsi, il allait commencer une querelle, mais la vieille reprit la délibération qu'elle avait entamée. « Vous vous battrez une autre fois, dit-elle, lorsque nous aurons le temps. Aujourd'hui, il faut décider comment nous ferons pour entrer à Grand d'une manière honorable. Je connais à Buick une vieille marchande qui fournit le conseil et qui nous donnera ce qu'il nous faut. Un carrosse d'apparat où nous mettrons M. Cornelius en disant qu'il a été blessé en duel et qu'il est encore en convalescence. « Oh non, non !» dit le petit. « Oh, je ne veux pas faire cela. La chose n'aurait qu'à m'arriver véritablement. » Ben, « seulement, mon seigneur, continua la vieille, dans ce village, nous ne trouverons peut-être pas un costume digne de votre rang. Ayez d'abord soin de couper soigneusement votre barbe et vos cheveux, autrement les gens vous prendraient pour peau d'ours. Mais je suis peut-être de sa famille, dit le petit. Qui est-ce, peau d'ours? Où est-il ? Raconte-nous cette histoire, dit à son tour Bella. La nuit est presque passée et nous ne pourrons partir aujourd'hui. Je veux rester encore demain pour prendre congé de tout ce qui m'est cher dans cette maison.
Raconte, vieille, dit le petit, ou je te bats.
Banca, comment ça donc?
Histoire de peau d'ours. Lorsque Sigismond, roi de Hongrie, fut vaincu par les Turcs, un lansquenet allemand abandonna le champ de bataille et s'enfuit dans la forêt. Cet homme, n'ayant ni argent, ni maître, ni lieu, était fort embarrassé du chemin qu'il devait prendre, lorsqu'apparut un génie qui lui dit que s'il voulait le servir, il lui donnerait assez d'argent pour devenir maître à son tour. Le lansquenet répondit qu'il serait très content et il accepta. Mais avant de l'engager, le génie, désirant savoir s'il était courageux, afin de ne pas donner son argent pour rien, le conduisit au réduit d'une ours qui avait ses petits, et au moment où elle sauta sur le lansquenet, il lui ordonna de lui tirer dans le nez. Le lansquenet obéit exactement et lui envoya deux chevrotines qui l'étendirent raides. Après cet exploit, le génie lui dit « « Prends la peau de cet ours, elle pourra te servir. Seulement ôte-la sans la déchirer. Je veux te rendre riche, mais pour cela il faut rester 7 ans à mon service. Pendant 7 ans, il faut toutes les nuits, à minuit, monter la garde pendant 1 heure à mon château. Et pendant 7 ans, tu ne dois te couper ni te nettoyer les cheveux, ni la barbe, ni les ongles, ne jamais te laver. » T'épousseter ni te parfumer. Le jour, tu auras pour t'éclairer la lumière du soleil, et la nuit, celle de la lune et des étoiles. Tu auras du bon vin et du pain de munitions, mais surtout, tu ne devras jamais prononcer ni pater ni ave. » Le lansquenet accepta tout et dit au génie, « Oh, tout ce que tu me défends de faire, je ne l'ai guère fait dans ma vie. Je n'ai pas souvent usé le pain, ni d'éponge, ni de prière. Et tout ce que tu m'ordonnes de faire ne me sera pas difficile après un bon verre de vin. » Là-dessus, il endossa sa peau d'ours et le génie le conduisit à travers les airs, dans un château isolé, situé au milieu de la mer, où il commença son service. Le lansquenet resta 6 ans et demi dans sa peau d'ours. C'est de là qu'il prit le nom de peau d'ours. Sa barbe et ses cheveux avaient tellement poussé, s'étaient tellement enchevêtrés, qu'il n'avait plus guère l'air d'être l'image du Créateur. Il était venu du Persil sur la peau d'ours. Enfin, il était très effrayant. À ces mots, Bella regarda avec effroi le petit qui passait avec satisfaction les doigts dans ses cheveux, bien convaincu de sa supériorité sur le malpropre lansquenet. « Alors, continua Braca, le génie va le trouver, s'amusa beaucoup de sa tournure, et lui dit qu'il n'avait plus besoin de lui, qu'il voulait le ramener parmi les hommes, mais à condition qu'il se montrerait dans le monde encore pendant 6 mois dans cet accoutrement sauvage. Puis il lui régla son compte et lui donna un trésor qui lui permit d'être aussi heureux que possible. Le lansquenet était très content de retourner chez les hommes dont il avait presque oublié la langue. Il se fit transporter par le génie en Allemagne, dans le pays des grisons, parce que c'était de son temps le pays le plus crasseux de la terre. Malgré cela, aucun hôtelier ne voulut le recevoir. Il finit par en décider un, en lui jetant à la tête une poignée de doublons et de piastres. L'hôtelier l'installa et le fit servir dans sa plus belle chambre pour qu'il n'effrayât pas les habitués de son auberge. Il arriva que le pape, cet homme habile qui conduit toute la chrétienté avec des images, passa par les grisons, revenant du concile. Le génie vint alors et peignit, dans la chambre du lansquenet, les portraits des hommes les plus célèbres de la terre, de ceux qui avaient vécu et de ceux qui devaient exister dans la suite. Il avait même peint l'Antéchrist et le jugement dernier. Cela surprit fort l'aubergiste, ce qui ne l'empêcha pas, la nuit où devait arriver le pape, de faire sortir le lansquenet de la chambre et de l'envoyer coucher à l'écurie. Puis il mena le pape dans la chambre si bien peinte par peau d'ours. Le lendemain, lorsque le pape se réveilla, la première chose qu'il fit fut de s'informer du peintre admirable qui avait si habilement orné cette salle. L'hôtelier lui raconta tout ce qu'il savait sur l'artiste, et fut obligé de l'amener. Le pape le complimenta et lui demanda qui il était. Le lansquenet lui répondit qu'il s'appelait Peau d'ours. Puis il lui demanda si c'était bien lui qui avait fait ces superbes peintures. « Qui donc serait-ce alors ?» répondit le lansquenet. Le pape lui donna alors les plus grands éloges et le proclama le plus grand peintre de la terre. Il lui dit qu'il avait 3 filles naturelles qu'il aimait beaucoup. L'aînée s'appelait Passé, la seconde Présent, et la 3e Avenir. Si tu peux les peindre, lui dit-il, de manière à les représenter telles qu'elles seront dans un certain nombre d'années, je te donnerai pour femme celle qui te plaira le plus. Le lansquenet accepta tout, comptant sur son génie. Le pape continua, « Mais comme tu pourrais me tromper et me dire qu'elles ressembleront à leur portrait, et qu'au contraire, cela ne s'accomplisse pas, tandis que tu peux devenir amoureux de mes filles, je veux y ajouter une autre épreuve. Je te montrerai seulement la plus jeune à venir, et d'après ses traits, tu devras peindre les 2 aînées. présent et passé. Si tu réussis, la jeune fille sera à toi. Si tu ne réussis pas, tout ce talent dont m'a parlé l'hôtelier sera à mes ordres. » Peau d'ours accepta tout et s'en vint à Rome dans le carrosse du pape. Dès le soir, le pape lui montra sa fille à venir, qui était très belle, mais qui avait les cheveux de couleurs différentes. Peau d'ours en tomba aussitôt amoureux. Mais la pauvre fille tremblait en le regardant. Lorsqu'elle fut partie, il appela son génie qui vint avec une palette et un pinceau et fit aussitôt le portrait des deux sœurs aînées. Lorsque Peau d'ours vit le portrait de présent, il ne pensa plus à la cadette et se plaignit amèrement de ne pouvoir la voir. Bon, le génie le consola et lui dit « Oh, dans 6 mois, ta fiancée sera entièrement semblable à ce portrait. Ainsi, dans ce portrait, tu as fait ce que demandait le pape, l'image de sa fille telle qu'elle sera dans un certain temps. Dans le portrait du passé, tu vas voir comment sera présent d'après ce même espace de temps. » En même temps, le génie peignit passé, et elle ne plut pas au lorsque naît. Donc il demanda au génie de faire le portrait de passé tel qu'elle était maintenant. Le génie essuya alors les pinceaux sur le mur et lui répondit « Oh, autant saisir les nuages dont personne ne garde le souvenir. » Là-dessus, il disparut. Le lendemain, le lansquenet montra les portraits au pape, qui l'embrassa et le fiança à sa plus jeune fille. Le lansquenet était si joyeux qu'il ne s'aperçut pas que sa fiancée pleurait lorsqu'il partagea l'anneau qui devait les unir et qu'il lui en mit une moitié au doigt. Après quoi, il prit congé du pape, car j'avais oublié de vous dire que le génie le lui avait ainsi ordonné, et retourna en Allemagne pour attendre dans les grisons la fin de sa 7e année. Après cela, il alla aux eaux de Bade, où il resta 6 mois pour se laver. On cassa une 12aine de rasoirs avant de pouvoir entamer sa barbe et ses cheveux. Lorsque cette toilette fut finie, il s'acheta les plus riches vêtements et repartit vers sa bien-aimée. Mais pendant l'intervalle, celle-ci avait pris la figure que le génie avait autrefois donnée à présent. Elle était très belle, mais toujours triste parce qu'elle avait peur de son fiancé et qu'elle était constamment raillée par ses sœurs qui n'étaient pas mariées. Un jour, un grand bruit de trompette attira les 3 sœurs à la fenêtre. C'était un beau chevalier étranger qui entrait dans la ville suivi d'une foule de domestiques. Les 2 sœurs aînées se le souhaitèrent aussitôt pour époux, et ô merveille! Le chevalier s'arrêta devant la maison et fit demander la permission de leur rendre visite, ce qu'elles accordèrent avec empressement. Il se donna pour un de leurs parents éloignés qui désirait épouser une d'elles et voulait leur présenter ses hommages en leur offrant quelques cadeaux. Les 2 aînées prirent les présents avec avidité, mais la plus jeune restait silencieuse et solitaire comme une tourterelle. Les 2 sœurs faisaient tous leurs efforts pour plaire au chevalier, mais sans y réussir. Présent était comme autrefois passé, tandis que passé avait un visage panaché, semblable à une statue d'albâtre qui serait restée longtemps exposée sous une gouttière. Mais Avenir était resplendissante de beauté, et ses cheveux avaient une couleur charmante et uniforme. Cependant, pour connaître le sentiment de la plus jeune, il se montra très aimable auprès des 2 aînées. Mais la cadette restait toujours muette et réservée, tandis que ses sœurs s'enorgueillissaient de l'apparente présence, référence du chevalier. Il reconnut alors sa fiancée et lui mit au doigt l'autre moitié de l'anneau. La pauvre fille, tout à l'heure délaissée, était au comble de la joie. Le pape arriva en ce moment et les bénit. Lorsque les deux époux furent allés se coucher, les deux sœurs aînées furent prises d'un si violent désespoir que l'une se pendit et l'autre alla se jeter à l'eau. Dans la nuit, le génie, portant le corps des deux sœurs entre ses bras, apparut pour la dernière fois chez le lansquenet et lui dit « Tu as rempli tous tes devoirs envers moi. J'y gagne encore puisque j'ai ces deux sœurs et toi tu n'en as qu'une. Adieu, vis heureux et garde bien ton trésor. » Mais, dit Cornelius, pourquoi les deux sœurs furent-elles si furieuses qu'ils aient été se coucher ? Parce qu'ils allaient se marier, répondit Braca. Mais qu'est-ce donc que se marier ? Demanda le petit. Oh, tu ne peux pas le comprendre, dit la vieille. Et le petit s'apprêtait à retourner pour lire dans la pensée de Braca au moyen de ses yeux le derrière, lorsque tout à coup il poussa un cri effroyable et sautant sous la table alla se réfugier dans la robe rapiécée de la vieille. « Qu'est-ce qui te fait peur ?» dit Braca. Elle n'avait pas plutôt dirigé sa vue du côté où Cornelius avait regardé qu'elle sauta en criant sur la cassette. Bella se cacha la tête dans ses mains sans oser lever les yeux. Les hommes vivants, dit une voix rauque, sont bien fous. Ils écoutent avec grand plaisir mon histoire et ils ont peur quand ils me voient. Revenez de votre effroi, sinon j'écris si fort que les poutres de la maison vont vous tomber sur la tête. Allons, dit Cornelius, toujours caché sous la robe de la vieille. Que veut peau d'ours? Je l'écoute. « Dans quel trou de souris es-tu caché, mauvais bonhomme ?» dit Peau d'ours. « Mais dans un trou, tu n'y arriveras pas, gros lourdeau. Allons, dépêche-toi, car j'étouffe ici. Dis-nous ce que tu veux. »« Ah !» dit Peau d'ours, « j'ai pendant ma vie tant aimé mon argent que j'en ai caché le reste dans ce mur, et qu'après ma mort, je voudrais veiller auprès de ce trésor, et accordez-moi seulement cette dernière liberté. » « Rends-le-lui, murmura la vieille, sinon il va nous tordre le cou. » « Non, répondit Cornelius, tu n'en auras pas un l'air. Il faudra que tu le gagnes. Tu es un gaillard solide et qui peut nous être utile. » Tu peux encore remettre ton corps, tu le brosseras et l'époussetteras bien, et tu nous serviras sur la terre en qualité de valet. Oh, dit Peau d'ours, pour mon corps, il n'y a que quelques veines qui sont un peu ossifiées depuis que je suis mort, mais j'arrangerai cela facilement avec un bon couteau. C'est cependant pas agréable pour moi de servir sur la terre un avorton comme toi. Oh, c'est la punition de mon avarice. « Et quoi ?» dit Cornelius en se réfugiant de nouveau sous la robe de la vieille. « Je ne suis déjà pas si petit. C'est toi qui es trop grand, et je ne sais pas trop ce qui vaut le mieux. Un petit peut se glisser, là où un grand ne peut pas même approcher. Enfin, veux-tu nous servir fidèlement ? Je te donnerai un ducat par semaine jusqu'à ce que tu aies ainsi regagné tout ton trésor. » « J'accepte le traité, dit Peau d'ours. La nuit prochaine, je viendrai ici avec mon corps, si j'ai le temps de le rattraper. Auprès de moi est enterré le domestique d'un très riche seigneur avec lequel je changerai d'habit, ce qui m'évitera de sortir mon beau pourpoint le soir. Le pauvre diable sera bien content de se voir si richement enterré, si toutefois il se réveille au dernier jour, car il ne bouge jamais. » et iront sans discontinuer.
C'est bien, dit Cornelius, c'est bien. Ces femmes ne prennent pas grand plaisir à t'entendre. Allez, va te faire homme.
Adieu, répondit Podour, c'est convenu. Mais pourrais-je avoir un ducat par avance? J'ai engagé au vert quelques petits objets que je voudrais bien retirer.
Voilà, dit le petit en prenant une pièce dans le tas sur lequel s'était assis la vieille.
Voilà ton ducat. Si tu te conduis bien, je ne te retiendrai pas sur tes gages.
Podours disparut. Cependant, il se passa encore quelque chose avant que Bella et la vieille osassent lever la tête. Le petit Cornelius se mit à se moquer d'elle. Depuis cette apparition, elle ne pouvait se défendre d'avoir un certain respect pour lui.
« L'homme nous échappera et s'enfuira avec tout notre argent, » dit la vieille.
« Bon, non, comment le pourrait-il? Ne savez-vous pas qu'un génie doit tenir sa parole scrupuleusement? Vous autres hommes, vous n'avez pas besoin de le faire parce que vous n'avez rien à craindre pour votre âme après la mort.
« Mais toi, es-tu un génie ou un homme, mon cher Cornelius ?» dit Bella.
Moi, répondit vivement le petit, c'est une question bien bête. Je suis moi, et vous n'êtes pas moi. Je suis feld-maréchal, et vous restez aujourd'hui ce que vous étiez hier.
Mais des questions pareilles, si on y faisait attention, feraient venir des ampoules au cerveau, comme le réfort sur la peau.
« Mais où as-tu donc appris cette propriété du réfort ?» demanda Braca.
Mais lorsque j'étais là-haut, sous la potence, j'avais pour voisin un pied de réfort qui était très content de pouvoir faire venir des ampoules parce que cela attirait l'attention sur lui. Il appelait cela faire son effet tragique. « Allons, bonne nuit, Braca, et au revoir. » « Va-t'en vite et surtout n'oublie pas mon bâton de maréchal. »
Lorsque le petit se fut éloigné, Braca récapitula tout ce qui était nécessaire pour le voyage, qui fut irrévocablement fixé pour la nuit prochaine. Le lendemain au soir, Bella vint encore une fois dans le petit jardin. Il lui sembla que chaque branche avait une âme. Elle se souvint de la nuit où elle avait vu l'archiduc, mais quant à lui-même, elle l'avait complètement oublié. Elle ne se rappelait même plus comment il lui était apparu, et du reste, elle n'y attachait aucune importance. Elle était contente d'entrer dans le monde, mais elle avait peur de tous ces yeux qui allaient s'attacher sur elle, et la crainte de les trouver méchants mêlait de l'amertume à sa joie. Elle rougissait d'elle-même d'avoir connu son père, et toute la reconnaissance qu'elle devait à Braca, toute la joie qu'elle éprouvait des progrès de son heureux et hardi petit bonhomme Racine, ne pouvait étouffer cette honte. La noblesse de sa race égyptienne coulait dans ses veines. Elle regardait intimement les étoiles, ses aïeuls, et à travers le froid du mois d'octobre, elle sentait la chaude brise de son pays, alors que le Nil rentre dans son lit et que tout se remet au travail. Mais elle connaissait aussi le crime du peuple dont elle faisait partie. Ce peuple qui n'avait pas voulu donner un abri à la Sainte Mère de Dieu, lorsqu'elle se réfugia dans ce puissant royaume, avec son fils le Sauveur.
« Notre crime n'est pas encore expié, » dit Bella en soupirant.
Elle leva les yeux et vit la lune entourée d'un cercle d'une couleur si étrange que son cœur battit avec violence et qu'elle se mit à prier.
« Avec quel bonheur mon père bien-aimé se tournait vers cette colline pour y saisir le premier rayon du soleil levant. Mais demain, je ne la reverrai plus. » Que me veulent donc tous ceux qui m'entourent? Il faut que je m'en aille loin, aussi loin que mes pieds pourront me soutenir. Le monde n'appartient-il donc pas à tous ?
Le sentiment après la liberté, lui dit tout bas la vieille qui s'était approchée. Allons, peau d'ours a déjà tout chargé, Cornelius est à cheval sur son dos, le naturier encore emporté.
Si fait, répondit Bella, il y a encore mes poupées et mon livre de magie.
Oh, ma chère enfant, dit la vieille, ce butor de peau d'ours a acheté tout cela dans le poil. Mais ne t'en fâche pas, je t'en prie.
Ainsi, il faut que je laisse ce qui m'a tant amusé.
Oui, chère fille, dit la vieille en l'embrassant. Voilà déjà 2 semaines que je voulais te le dire. Tu es grande maintenant, d'un jour à l'autre tu peux te marier. Ton sein se gonfle comme un fruit qui sort du bouton.
Vieille, es-tu folle? Dit Bella, étonnée.
Ah, laisse-moi dire, il fait nuit, et lorsque je ne me vois pas, je peux oublier encore une fois que j'ai traîné par tout le monde, ramassant les ordures, et que je suis et serai toujours une sale et horrible vieille. Moi aussi, j'ai été jeune et jolie, et je chantais et je faisais des chansons avec nos beaux jeunes gens. Et maintenant que je te vois, toi, jeune et jolie aussi, ne sachant rien, ne te connaissant pas toi-même, je rêve au bonheur, aux joies que tu devrais goûter. Te voilà une grande fille. Toutes les jouissances, tous les plaisirs te sont ouverts. Tu regardes un homme, oh, les autres en sont jaloux. Tu lui tends la main, il balbutie, il se trouble, il devient fou. Tu jettes un regard à un cavalier, un regard à un autre, ils vont se battre. Ils comptent pour rien leur sang quand c'est pour toi qu'ils le versent.
Grand Dieu, s'écria Bella, quel malheur je pourrais occasionner. Oh, j'aime mieux m'enfuir et me cacher loin du monde.
Braqua la retin et lui dit, tu veux t'enfuir, petite sotte, mais si tu l'essayais seulement, je te fouetterais avec des orties. Tu es une bûche. Autant vaudrait parler d'amour à une oie, elle y comprendrait autant que toi. Et maintenant, arrive, allez, nous n'avons plus de temps à perdre, une autre fois, je t'en dirai plus long.
Elle poussa dans la maison Bella, qui, toute troublée de ce qu'elle venait d'entendre et de ce que la vieille lui promettait de lui dire encore, se consola bien vite de la perte de ses poupées et de son livre, et prit à peine attention à peau d'ours, qui, vêtu de sa livrée sombre et avec Cornelius sur son dos, ressemblait à un ours portant un singe, comme on en voit dans les foires. La vieille ouvrit la marche, Bella la suivit, peau d'ours sortit le dernier, ferma la porte. Ils s'avançaient en silence. De temps en temps, la vieille murmurait en cherchant la route qui avait disparu sous la neige. Du côté de la montagne funèbre, ils crurent voir comme un grand mouvement, mais ils ne s'en occupèrent pas, et ils aperçurent enfin dans un enfoncement le village de Buick, où Braqua reconnut la dernière lumière qui brillait chez sa vieille camarade de vol à Niedken. Ils arrivèrent sans bruit à la porte du jardin, où Braqua s'annonça en poussant le cri de la caille. Une petite fille vint ouvrir et les conduisit dans une cave. Après la cave, ils montèrent un escalier et se trouvèrent dans un galetas éclairé par la lumière de la chambre voisine. Braqua entra bravement dans la chambre éclairée, où ils trouvèrent une grosse vieille femme qui, avec sa belle robe de soie verte, ressemblait à un œillet dont les pétales auraient été représentés par sa tête et ses mains rouges ou par son jupon éclatant. Elle était agenouillée devant un petit autel orné d'une image de la Sainte Mère Marie et de beaucoup de cierges de couleurs.
Allons, lui dit Braqua, tu pries maintenant parce que tu as beaucoup bu et que ton gosier te refuse le service.
La mère Niedken, car c'était elle, leva un instant la tête, puis se remit à égrener son chapelet avec un redoublement d'activité. Peau d'ours, qui était en humeur de dévotion, se mit aussi à genoux, et Bella,
qui savait de belles prières, en fit autant. Quant à Braca, qui connaissait toutes les serrures et tous les êtres de la maison, elle prit un grand pot plein de bière dans une armoire et se mit à boire pour les autres. Pendant ce temps, Cornelius examinait tout ce qui se trouvait dans la chambre. C'était un fouillis de vieux galons, de chiffons, d'ustensiles de cuisine, qui ne pouvait se rassasier d'admirer. Tout cela était nouveau pour lui, mais il savait bien vite deviner l'usage de chaque objet. La mère Nidken, qui était une revendeuse, et dont les relations étaient très étendues, réunissait dans son taudis les plus curieuses vieilleries en tout genre. Dans cette maison, rien n'avait été fait pour l'emploi qu'il remplissait. Elle avait fait un choix de tout ce qui pouvait lui convenir pour son usage, et il en était résulté l'ameublement le plus bizarre, mélange de la mode de chaque siècle et de chaque pays. Les chaises, par exemple, représentaient des nègres en bois tenant au-dessus d'eux un parasol bariolé. Elles venaient du jardin d'un riche marchand de gants qui avait fait de grandes affaires en Afrique. Au milieu de la chambre était suspendue une couronne de cuivre qui avait autrefois orné la synagogue juive et dans laquelle brûlait maintenant un cierge en l'honneur de la Sainte Vierge. L'autel était formé par une table de jeu réformée, toute déchirée par le frottement des bourses de cuir et sur laquelle était placée une salière en guise de bénitier. Les murailles étaient garnies de vieilles tapisseries représentant des tournois, et l'on voyait suspendus le long des murs des vêtements et des armes de chevaliers. La mère Nidken, par son commerce, qui comprenait souvent le recel, était la providence de tous les filous des environs. C'était une amie intime de Braca, et elle pouvait lui tenir tête en bavardage. Lorsqu'elle eut fini son dernier ave, elle se leva avec une vivacité étonnante pour un si gros corps et alla se placer les bras croisés devant Braca. « Tu ne peux plus prier maintenant. Le diable, ton maître, te l'a défendu. Quand viendra-t-il donc te chercher? Tu te ratatines de jour en jour. Oh, si je te ressemblais, n'oserais certes pas sortir. » « Oh, tu es donc bien jeune, toi, » répondit Braca. « Tu ressembles à mon vieux chien, lorsqu'il vient d'être tendu. Tes cheveux sont l'effet de baguette au-dessus de ta figure rouge. Oh, t'as sûrement trop bu l'eau de vie aujourd'hui. Aurais-tu seulement dansé la ruse, vieille folle ?»« Cela peut encore aller, » repartit la mère Nidken. Et elle se mit à danser, à l'étonnement de tous ceux qui la regardaient sur ses jambes qui tremblaient sous elle, jusqu'à ce qu'elle tombât au milieu des éclats de rire des assistants. Elle se releva en jurant qu'elle avait tous les os rompus et qu'elle avait besoin de boire un verre de vin d'Espagne. Après avoir bu son vin, elle regarda pour la première fois les nouveaux arrivants. Lorsqu'elle aperçut Bella, elle dit à Braca, « Laisse-moi celle-là, il faut qu'elle me passe par les mains. Si tu as quelques projets en tête, elle te rapportera de l'argent, cette petite. » Braca lui imposa silence en lui disant que c'était sa maîtresse. « Mais quel est ce crapaud ?» continua la Nidken en montrant le petit.
« Je suis le feld-maréchal Cornelius, » répondit-il. « Ayez donc plus d'égard pour moi, vieille crête de coq. »
Alors, il pourra bien être feld-maréchal dans les enfers, » dit Nidken. « Et toi, ours apprivoisé, qui es-tu ? » ?»«
Je connais cette livrée. »« Oui, je l'ai vendue au seigneur de Floris pour tenir lieu d'une neuve qu'il voulait promettre à son serviteur en l'ensevelissant. »
Tu la lui as volée dans son cercueil, tu m'en as bien l'air. »
Peau d'ours, sans lui répondre, lui donna un violent soufflet et qui la dégrisa complètement. Elle demanda enfin ce qu'on désirait. Braca lui expliqua qu'il leur fallait de beaux vêtements et qu'il voulait le lendemain matin prendre son meilleur carrosse pour aller à Gand où il louerait un bel hôtel. La mère Nietken, voyant qu'il y avait quelque chose à gagner dans cette affaire, alla réveiller aussitôt son monde et parcourut toute la maison pour chercher ce qu'il y avait de plus beau. Elle revint, les bras chargés de vêtements de tout genre. Ils firent leur choix et en remplirent deux coffres. Pour le linge, il était moins abondant car les Hollandais vendent bien leurs habits, mais ils gardent leur linge jusqu'à la dernière extrémité. Ensuite, on s'occupa de la toilette. La mère Lincoln alla chercher un brasier et des fers pour les friser à la dernière mode. Bella eut beau lui montrer que ses cheveux frisaient naturellement, ce n'était pas assez bien au goût de la vieille, et la pauvre enfant se crut entre les griffes du diable lorsqu'elle sentit ses cheveux grésiller sous l'action du fer chaud. Les cheveux de derrière de Bella, quoique récemment coupés, étaient assez longs pour la mode du jour. L'air noble de la jeune fille inspirait un certain respect à la mère Nietken. Braca elle-même, lorsqu'elle fut lavée et frisée, avait pris une mine pleine de dignité et avait l'air d'une véritable gouvernante. Car au premier coup d'œil, on reconnaissait qu'elle n'était pas la mère de Bella. La coquetterie se réveilla bientôt chez les deux femmes, et aussitôt qu'elles eurent mis leurs riches vêtements, elles s'allèrent admirer complaisamment dans la glace. Quant au feld-maréchal, la mère Nienken n'en pouvait pas faire grand-chose. Elle avait beau lui arranger, lui tailler, lui peigner son épaisse chevelure, il n'en gardait pas moins son visage comprimé, ses épaules courbées et sa voix étouffée. « Mon cher petit, lui dit la vieille, tu es un nain, bien certainement, ou je suis pas une honnête femme. »« Quoi ? Répondit Cornelius, je suis un homme, et vous m'appeliez un nain, mais qu'est-ce que c'est qu'un nain ?»« J'en ai jamais vu, repartit la mère Nickel, mais tu m'as bien l'air d'en être un. Tu pourrais te montrer pour de l'argent. »« Je ne demande pas mieux, dit Cornelius. » Et il se mit à réfléchir à cette possibilité de pouvoir gagner ainsi de l'argent, très reconnaissant du moyen que la mère Nietken venait de lui indiquer.